Il est 19h18 et ce soir, dans votre débat du Club des idées d'Europe 1, on parle de la crise des vocations au sein de la magistrature, une crise qui est particulièrement criante dans la justice de proximité, celle qui gère les affaires de violences conjugales, par exemple, de petites délinquances, de conduite en état d'ivresse pour ce qui est du pénal, mais aussi dans le civil, les divorces, les voisins qui se déchirent sur une affaire de clôture ou de coq qui chante trop tôt. Aujourd'hui, les tribunaux judiciaires ont bien du mal à trouver des candidats. Résultat, eh bien, ceux qui sont en poste cumulent souvent plusieurs fonctions. Comment expliquer cette désaffection qui nous impacte tous, nous, les justiciables? On en parle avec mes invités en direct. Katia Dubreuil, présidente du syndicat de la magistrature, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Joëlle Munier, présidente du tribunal judiciaire de Caen et de la Conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires, qui est en ligne avec nous. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Arnaud Larez, procureur de Sens, bonsoir à vous également. Et Olivia Bonsoir. Dufour, journaliste responsable du site Actu Juridique, auteur de Justice, une faillite française, c'est aux éditions LGDJ. Bonsoir.
Bonsoir
à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'accompagner ce soir. On va donc parler de ces magistrats qui travaillent au plus près de la vraie vie, qui sont donc confrontés aux problèmes quotidiens des Français, à leurs préoccupations directes. Ce sont des dossiers, des faits divers ou des affaires qui ne font pas souvent la une des journaux, mais qui constituent une masse de travail considérable. La France compte aujourd'hui environ 8500 magistrats dépendants du ministère de la Justice. Katia Dubreuil, présidente du syndicat de la magistrature, il faut rappeler d'abord que sous cette appellation de magistrat, en fait, il y a une multitude de professions.
Ah oui, effectivement, quand on passe le concours pour devenir magistrat, on se prépare à pouvoir exercer toutes les fonctions, donc du parquet comme du siège, c'est-à-dire les fonctions de procureur de la République, membre du parquet, à savoir ceux qui... Nous avons un procureur, donc il pourra l'expliquer mieux que moi encore, qui font les enquêtes dans les affaires pénales, qui dirigent les enquêtes et qui prennent les décisions de poursuite. Et puis, des fonctions, toutes les fonctions du siège, les juges civils, les juges qui jugent les délits en correctionnel, les juges d'application des peines, les juges des enfants, juges d'instruction, le juge des libertés de la détention et enfin, juge des contentieux de la protection. Donc, on doit effectivement se préparer à pouvoir exercer l'ensemble des fonctions et acquérir toutes les techniques pour cela.
Et alors, j'ai appris en préparant cette émission que c'est une profession magistrat qui est majoritairement féminine. Hein.
Oui, c'est de plus en plus le cas, effectivement. Dans les promotions les plus récentes, on a en général 70%, 80% de femmes qui sont reçues au concours.
Joëlle Munier, je rappelle que vous êtes présidente du tribunal judiciaire de Caen. Comment est-ce que vous expliquez ça? Parce que les femmes ont besoin de faire un métier qui a un sens, une utilité, une humanité. Pourquoi vous, est-ce que vous avez choisi cette profession?
Ah mais je crois qu'effectivement, enfin vous l'avez dit, le devenir magistrat, c'est vraiment le choix d'une vie. C'est le choix qu'on fait pour l'attrait intellectuel, pour l'attrait humain de ses fonctions. C'est un métier qui s'ancre vraiment dans la réalité sociale. On a tous les jours une plongée dans la nature humaine. Hein. Vous l'avez dit, on est au plus près de la société, des réalités, de l'actualité, des débats de société. Et avoir dans l'idée qu'on puisse avoir cette utilité sociale, manifeste, qu'on puisse participer aussi aux évolutions de la société. Hein. Je vous rappelle tout ce que vous appelez, ce qu'on appelle la jurisprudence, hein, et toutes ces décisions qui vont faire avancer sur tel ou tel point. Le débat de société, c'est quelque chose qui... constitue vraiment des choix de vie et c'est peut-être ce qui peut expliquer aussi que quand on ne s'y retrouve peut-être pas ou qu'on met des ambitions très hautes dans ses fonctions, dans le service des justiciables, ben parfois on puisse un peu ensuite être frustré de ne pas pouvoir assumer pleinement ses fonctions.
Alors comment ça se passe quand on sort de l'École nationale de magistrature? Parce que manifestement les difficultés, elles commencent à ce moment-là. Arnaud Lazer, vous êtes procureur de Sens dans Lyon. Comment ça s'est passé pour vous cette sortie de l'École de magistrature?
On plonge directement dans le bain. J'ai été nommé substitut du procureur dans une ville moyenne et on apprend le métier encore plus profondément qu'on a eu à l'école. Donc on va à l'audience, on est de permanence une semaine sur quatre, on va sur les scènes de crime. On passe de l'école, de la théorie à la pratique.
Katia Dubreuil, à l'issue de ce concours, on a une affectation qui n'est pas forcément celle dont on rêve, hein, d'ailleurs, comme dans tous les concours. Hein.
Oui, bien sûr, quand on sort de l'école, il y a une liste de postes qui est proposée par la chancellerie. D'ailleurs, il y a précisément le nombre de postes actuellement, et c'est une chose qu'on pour laquelle on souhaiterait qu'il y ait une évolution, puisqu'il y a le même nombre de postes que le nombre de personnes qui sortent de l'école. Ce qui veut dire que quand les auditeurs de justice n'arrivent pas à se mettre d'accord pour répartir les postes entre eux et que ça se joue au classement, puisqu'il y a un classement de sortie à la fin de l'école,
ouais.
Le dernier de la liste va prendre le poste qui reste, il n'aura aucun choix, et donc il peut aller tout à fait, il peut se retrouver en Outre-mer, par exemple, alors que... il habite en France avec sa famille, etc. Donc c'est quelque chose, effectivement, les premières affectations ne sont pas forcément voulues. On doit faire un choix entre la géographie et puis la fonction. Il y a des fonctions qu'on peut avoir envie d'exercer en sortant de l'école et puis on va forcément... finalement choisir une autre fonction par rapport aux critères géographiques.
Aux critères géographiques, parce qu'il y a des tribunaux dans toute la France, on peut aussi tomber dans une grosse comme dans une petite juridiction. Hein.
Oui, il y a effectivement des grandes différences de façon de travailler entre les petites juridictions et les grosses juridictions, et avec chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Donc je ne dirais pas forcément que travailler dans une petite juridiction, ça peut être lourd parce qu'effectivement on est amené à exercer des fonctions très diversifiées, à être un peu multitâche, et en même temps on a des responsabilités peut-être plus que quand on est au milieu de beaucoup d'autres magistrats très vite.
On va revenir sur ce côté multitâche qui est très intéressant, mais quand on devient magistrat, on sait qu'on va devoir être donc très mobile, puisque tous les 7 ans, me semble-t-il, Joël Munier, tous les 7 ans au maximum, on doit changer d'affectation. Comment ça se passe ?
Alors, cette limite de 7 ans est applicable pour les fonctions de chef de juridiction, hein, donc de président ou de procureur. Ensuite, pour un certain nombre de fonctions particulières, comme les juges d'application des peines, les juges d'instruction, c'est une barre qui est fixée à 10 ans. Et les autres ne sont pas n'ont pas ces délais imposés. En revanche, si l'on veut progresser, on va dire, dans la carrière, on a une mobilité qui est de fait imposé. Donc c'est vrai
que ça doit être terrible, notamment pour la vie de famille. Hein.
Voilà, donc c'est vrai que ça a des incidences nécessairement sur la vie de famille. Aujourd'hui, on voit, c'est pour ça, on voit la sociologie aussi des magistrats changer. On a beaucoup, on a dit que c'était un corps féminisé, certes, mais c'est surtout que actuellement, les deux, souvent, les deux membres
dans un
du couple,
oui, les deux
travaillent. Voilà, les deux personnes travaillent. Donc comment arriver à concilier les intérêts de chacun, le switch de progression de carrière de chacun, surtout si l'un et dans le privé, l'autre dans la magistrature, ou bien, enfin, peu importe les métiers. Donc, c'est ça qui certainement constitue à la fois un frein, mais aussi, ça peut être aussi un intérêt de savoir que dans sa carrière, on ne sera pas limité à une fonction, comme l'a dit Madame Dubreuil, on ne sera pas fixé non plus sur un lieu ou un tribunal. On a la possibilité de changer si, justement, au bout de 2 ans, 3 ans, ça ne correspond plus à son attrait, par exemple. C'est aussi un atout. Mais c'est vrai que c'est une entrave importante pour la constitution aussi de liens et d'insertion
et dans la société. Et de la société, oui. Alors on va poursuivre ce débat dans un tout petit instant sur Europe 1. On va revenir sur ces problèmes de mobilité géographique. Hein. Et puis on va voir aussi qu'au-delà de ces problèmes, le quotidien des magistrats est souvent compliqué. À tout de suite. 19h29, on poursuit notre débat sur Europe 1. On parle de la crise des vocations au sein de la magistrature, de la justice de proximité. Comment expliquer ce désamour pour la profession, pour ces métiers qui sont pourtant au cœur de notre société, qui permettent d'exercer des tâches variées, au plus proche de la vraie vie. On continue d'en parler avec Katia Dubreuil, la présidente du syndicat de la magistrature, Joël Munier, présidente du tribunal judiciaire de Caen et de la Conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires, Olivia Dufour, journaliste responsable du site Actu Juridique, qui a écrit un livre sur la faillite française de la justice, et Arnaud Larrez, hein, qui est procureur de Sens et qui est en direct également avec nous. Alors, il y a effectivement, on en parlait tout à l'heure, dans le parcours, dans la vie d'un magistrat, ce problème d'affection aléatoire qui doit être, et on le comprend, compliqué à vivre. Vous, Arnaud Larrez, comment vivez-vous cette mobilité géographique ? Parlez-nous un petit peu de vous. Bon, mais c'est la règle, on la connaît, mais ça ne doit pas être facile à concilier, on le disait, avec une vie sociale.
Tout à fait. Moi, par exemple, sur ma dernière affectation, j'ai décidé de ne pas déménager et donc j'ai une heure de transport aller, une heure de transport retour tous les jours, mais avec des horaires de procureur de la République, c'est-à-dire vous commencez à 8 heures, vous finissez à 22 heures. Donc la vie de famille, elle est un peu mise entre parenthèses. Et le week-end, vous êtes de permanence, vous êtes chef de parquet, vous êtes disponible tout le temps, y compris pendant les vacances. Donc c'est un vrai sacrifice.
Et vous, Joël Munier, vous travaillez à Caen, donc vous êtes la présidente du tribunal judiciaire de Caen, mais votre famille, elle habite bien loin de chez vous, hein.
Et oui, voilà. Donc là, ce sont des choix, là aussi, comme je disais, des choix de vie. Et effectivement, ma famille habite à plus de 800 kilomètres. Et puis,
à Toulouse.
Voilà. Donc on ne peut pas rentrer tous les week-ends chez soi. Donc, a fortiori, tous les soirs. Et comme le disait le collègue procureur de la République, quand on est chef de juridiction, voilà, on a des responsabilités qui font que, mais les autres magistrats aussi assument ces fonctions. On doit être présent, doit rester sur place. Il faut pas oublier que un tribunal vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ouvert tout le temps, il y a des permanences tout le temps et les magistrats sont à l'œuvre tout le temps. Et ils l'ont été aussi pendant le temps du Covid et du confinement, hein, où on a pu dire que les tribunaux étaient fermés. Certes, ils n'accueillaient pas de public pour limiter les risques sanitaires, mais ils continuaient à travailler et les magistrats étaient à l'œuvre et le sont tous les jours, quotidiennement et la nuit également. Donc c'est vrai que ce sont des contraintes pesantes, mais pour un métier passionnant, hein, comme le vôtre, hein, ce sont des métiers de passion.
Oui. Olivia Dufour, vous avez enquêté comme journaliste sur cette profession et le constat que vous dressez dans votre livre « Justice, une faillite française », il est assez terrifiant quand même, hein.
Ben oui, parce que effectivement, alors on le sait que la justice est sous-budgétée en France, on le sait parce qu'il y a des études de la CEPEJ, qui est le Conseil de l'Europe en fait, qui tous les deux ans comparent les pays du Conseil de l'Europe, et il se trouve que le montant du budget
ouais,
par habitant est le plus faible des pays à PIB comparables.
69,50 euros par habitant consacré à la justice en France, quand l'Allemagne investit 131,20 euros.
Voilà.
L'Espagne, 92 euros. L'Italie, 83. La moyenne européenne, c'est de 84,30. Nous, on est à 69,50. Effectivement, c'est peu.
Exactement. Alors ça se met en perspective avec les travaux d'universitaires qui ont analysé la situation depuis le 19e siècle et on découvre qu'en réalité la France est sous-budgétée, la justice en France est sous-budgétée depuis le milieu du 19e siècle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait on arrive absolument à l'os, on arrive au bout du bout. Parce que vous imaginez bien que les bâtiments se dégradent, que tout s'abîme quand on manque d'argent pendant un siècle et demi, il y a un moment donné où on n'en peut plus. Et la difficulté, parce qu'on entendait tout à l'heure les magistrats, oui, ça fait partie du statut, je pense que tous l'assument de devoir, c'est dur. Cette mobilité, mais ça c'est un choix, ça ils signent pour ça lorsqu'ils entrent dans la magistrature. Par contre, ils ne signent pas pour le fait de ne pas avoir de papier, pas avoir de crayon. C'est vrai ce que je vous dis, parce que quand on dit j'ai pas de moyens, les gens se disent bon, personne n'a assez de moyens pour faire ce qu'il a envie de faire, même pas vous et moi dans nos métiers. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'ils ont vraiment pas de moyens. Ils ont pas de fuel l'hiver dans certains tribunaux. Ils ont des toitures qui leur tombent sur la tête. Ils ont pas de logiciel performant. Ils ont un système informatique antédiluvien. Et ça s'appelle des situations en fait de harcèlement. C'est là que ça ne va plus. C'est pas intrinsèque à la fonction. C'est que le manque de moyens est en train de les épuiser totalement. Et le syndicat que préside Katia Dubreuil a fait l'année dernière un sondage auprès de ses membres. Elle a obtenu déjà de l'ordre de 800 réponses sur un corps de 8500. Ça veut dire 10%, ce qui est énorme comme réponse à un sondage volontaire, spontané. Et elle me corrige si je me trompe, mais dans ma mémoire, c'est 30% de magistrats en France, donc 30% des 8500 magistrats, sont en état de souffrance au travail. Donc, on confie nos destins à des gens qui sont en état de souffrance au travail. Et ils sont en état de souffrance au travail, pourquoi ? Parce qu'on ne fait que leur demander de gérer la pénurie en permanence, de faire des miracles. Le système tient en France, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas, uniquement sur la base du dévouement des magistrats, des greffiers et des personnels de greffe. Des gens qui font des miracles tous les jours. Et ils finissent par s'épuiser. Là, ils sont complètement épuisés.
Arnaud Larrez, vous êtes donc procureur de Sens. Vous validez ce que vient de nous dire Olivia Dufour ?
Alors, je dirais que être chef de juridiction, c'est gérer un petit peu des ressources limitées, hein, comme dans une entreprise.
On a un petit problème de liaison avec vous. Allez-y, apparemment ça remarche.
Oui. Être chef de juridiction, c'est gérer un petit peu la pénurie et avoir des moyens limités, gérer ces moyens limités. Mais c'est normal. En même temps, c'est à nous d'optimiser les personnels, d'optimiser le matériel pour que ça fonctionne. Après, c'est vrai que on est arrivé à des situations assez difficiles où on n'avait plus les budgets pour repasser une commande de papier, par exemple, et on doit faire pendant quelques semaines sans le papier. Mais ce sont des situations peut-être à ne pas trop exagérer au quotidien. Sens fonctionne bien. C'est surtout, je pense, un manque de personnel, de magistrats. Moi, vous voyez, à Sens, on est trois parquetiers, hein, dont le procureur. Trois parquetiers, ça veut dire être de permanence nuit et jour, une semaine sur trois. Hein. C'est énorme, y compris le week-end. Donc c'est ce rythme un peu effréné qui épuise les magistrats. Si on avait des renforts de magistrats, et c'est pas être excessif que demander un parquetier de plus à Sens, par exemple, pour passer à quatre et pour être de permanence qu'une semaine sur quatre. Voilà, si on avait ces renforts-là, je pense qu'on pourrait souffler un peu et bien travailler.
C'est plus des renforts humains dont vous avez besoin. Vous êtes remplacé, par exemple, quand vous partez en vacances, Arnaud Larrez ?
Non. Non, on gère avec l'équipe de trois. Hein, quand il y en a un qui est en vacances, c'est sur les deux autres que ça retombe.
Joël Munier, est-ce que vous faites vous aussi ce constat ? À quoi ressemble votre journée type, par exemple ?
La journée type, on pense le matin avoir son planning de telle et telle manière, et puis on s'aperçoit à la fin de la journée qu'on n'a pas pu du tout respecter la totalité de ses tâches. C'est un petit peu ça, le quotidien du chef de juridiction, qui par ailleurs a des activités juridictionnelles. Il tient des audiences, il prend des décisions tous les jours. Ce que je voulais dire quand même sur les éléments budgétaires que vous avez évoqués et qui sont une réalité, c'est qu'il y a eu là dans les derniers temps et sur ce dernier budget des avancées significatives hein, en quantité en termes quantitatifs, mais que tout ça s'inscrit sur un passé, comme l'a dit parfaitement votre journaliste, c'est que ça s'inscrit dans un passé et on a un rattrapage énorme à faire. Aujourd'hui, les effectifs de greffe sont particulièrement en tension et l'aspect numérique des choses, enfin tout notre système informatique est aussi en construction, on va dire. Hein. On n'est pas arrivé à la maturité numérique qu'on souhaiterait. Ouais. Donc c'est ce qui conduit à entraver quand même un peu le fonctionnement des juridictions et avec le fait qu'il faut savoir qu'on est un petit peu des chefs d'entreprise, nous présidents ou procureurs de juridiction, mais que contrairement à des chefs d'entreprise, nous n'avons pas de moyens direct et de levier direct. Nous ne maîtrisons pas nos effectifs hein, puisque ce n'est pas nous qui choisissons ni les collègues ni le nombre de collègues. Nous n'avons pas de la main sur le budget puisqu'il nous est donné nationalement. Voilà, donc ce sont des éléments qui font que on peut aussi parfois avoir une certaine crise, entre guillemets, sur ses fonctions, oui. Notamment de chef de juridiction.
En tout cas, quand on vous écoute, on comprend un peu mieux que ce ne soit pas forcément très attractif hein, pour un jeune qui sort d'école. On poursuit ce débat dans un tout petit instant sur Europe 1. Tout de suite.
Et maintenant, comme chaque mardi, parlons investissement responsable.
Et je suis avec Fabien Léonard, gérant d'une stratégie contribuant à financer la création d'emplois en France dans une société de gestion. Alors dites-moi, pourquoi est-il important d'investir dans la thématique de l'emploi en France ?
Alors, on a fait ce choix parce que nous considérons que l'emploi a un rôle central dans l'économie et que c'est un levier essentiel de développement durable. Et également parce que la France est un territoire attractif pour les investissements étrangers. Et nous investissons dans cette thématique à la fois via des actions cotées, qui devraient, selon notre analyse, créer des emplois en France, mais aussi via du non-coté en finançant des projets solidaires.
Et d'après vous, pourquoi cette stratégie suscite-t-elle un intérêt croissant de la part des épargnants ?
Alors, d'une part, les épargnants sont de plus en plus sensibles aux impacts sociaux de leurs investissements. D'autre part, parce que cette stratégie leur permet de suivre et de comprendre dans quel projet et dans quelle société leur épargne est investie, région par région, grâce à des cartes interactives.
Merci Fabien Léonard, à très bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
Pour en savoir plus sur le label ISR, parlez-en avec votre conseiller.
Suite de notre débat sur Europe 1 consacré à la crise de vocation dans la magistrature, avec toujours à mes côtés Katia Dubreuil, présidente du syndicat de la magistrature, Joël Munier, présidente du tribunal judiciaire de Caen, Arnaud Larrez, procureur de Sens, et la journaliste Olivia Dufour. Alors, on a vu qu'une fois sorti de l'école, le parcours de magistrat est bien souvent un parcours du combattant, ce qui explique sans doute cette désaffection pour la profession qui s'est aggravée ces dernières années. Elle manque de moyens, elle manque de bras, nous disaient nos invités, cette justice. La crise du Covid a engendré des retards considérables, ça crée des tensions forcément, on n'arrive pas à rattraper ces retards, j'imagine. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, Katia Dubreuil, vous êtes présidente du syndicat de la magistrature.
Déjà, je voulais juste peut-être reprendre juste un point par rapport à votre présentation, parce que je ne crois pas qu'il y ait de crise des vocations pour devenir magistrat. Ça reste un métier extraordinaire et je crois que beaucoup de jeunes étudiants ou de personnes qui ont eu une autre vie professionnelle ont envie de l'embrasser. Et d'ailleurs, nous avons dans la magistrature maintenant près de la moitié des magistrats qui ont fait autre chose avant, ce qui est une source de richesse pour la magistrature. Et le nombre de candidats au concours, les concours d'accès à l'École nationale de la magistrature pour les étudiants et puis ceux qui ont eu quelques années professionnelles, n'a pas du tout diminué ces dernières années. Donc on a toujours un nombre de personnes qui souhaitent embrasser cette carrière, on ne peut que les l'y encourager.
Il n'empêche qu'à l'arrivée, on manque de bras.
Voilà, le problème, c'est que par contre, que les budgets, par exemple, tout à l'heure, Madame Munier parlait d'une revalorisation du budget cette année, mais enfin, ça concerne l'embauche de contractuels, de personnes qui ont des emplois qui vont s'arrêter dans quelques mois, dans quelques années. Et ce ne sont pas des embauches de magistrats ou des embauches de greffiers. Il faut quand même dire un mot particulier pour les greffiers, oui, qui sont absolument nécessaires au fonctionnement de la justice et qui diminuent actuellement à chaque année. Donc le nombre de greffiers continue à diminuer alors qu'on est souvent dans des situations, parfois dans certaines juridictions, on a un nombre de magistrats à peu près correct pour fonctionner, mais on n'a pas les greffiers et on ne peut pas fonctionner sans eux. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Déjà, il faudrait que la justice se dote des outils qui permettraient d'évaluer les besoins dont elle ne dispose pas. Donc il faut savoir qu'en 2018, la Cour des comptes, dans un rapport, a dit à la chancellerie « Comment se fait-il qu'aujourd'hui vous n'avez pas d'outils pour mesurer le nombre de magistrats et de greffiers qu'il vous faudrait pour traiter toutes les affaires qui doivent être traitées par la justice ?» Et que, à ce jour, et c'est un serpent de mer, puisque déjà des années auparavant, les organisations syndicales avaient demandé que ce type d'outils soit élaboré, il n'existe toujours pas. Et on n'avance pas sur cette évaluation, effectivement, des besoins. Et tant qu'on n'avancera pas, on ne pourra pas savoir quel est le budget qu'on doit allouer à la justice pour pouvoir travailler. Et le problème, c'est que non seulement les magistrats s'épuisent, comme ça a pu être dit, mais en plus, il y a quand même une déshumanisation de la justice qui paraît problématique et qui peut être source de souffrance pour les professionnels et surtout aussi de conséquences pour les justiciables. Quand il n'y a pas seulement le nombre de magistrats, de greffiers, il y a aussi le nombre d'escortes, il y a tout le budget qui pose un problème. Quand on n'a plus le nombre d'escortes suffisant, et c'est le cas depuis quelques années, pour amener les détenus au tribunal pour être jugés par exemple, qu'est-ce qu'on demande aux magistrats de faire? On leur demande de faire de la visio. Donc de juger des personnes à travers un écran. C'est pas une manière, effectivement, d'avoir tout ce qui fait le cœur de la justice, la nécessité d'avoir un regard, des gens qui se parlent face à face, des personnes qui peuvent s'expliquer devant leur juge, qui peuvent avoir leur avocat à côté d'eux, tout cela est mis à néant par ce type de solution, de pis-aller finalement, qu'on nous met parce qu'on n'a plus les moyens de fonctionner normalement.
Et ça n'a rien à voir avec la crise du Covid, c'était déjà le cas avant.
C'était déjà le cas avant. Alors évidemment, il y a une accentuation de ce type de solution qui a pu se produire pendant la crise parce qu'il fallait limiter la présence des justiciables dans les juridictions. Mais à la faveur, par exemple, de cette crise, effectivement, on sent que il y a une accentuation, la chancellerie dans la volonté d'imposer toujours plus de visio dans les tribunaux, ce qui ne correspond absolument pas à l'idéal qu'on peut avoir
de la justice. Alors on peut espérer quand même que les choses changent. Le Conseil supérieur de la magistrature doit présenter d'ici quelques jours 25 propositions pour redonner de l'attractivité à cette profession. Joël Munier, vous en attendez quoi? Joël Munier, peut-être. Arnaud Larrez est avec nous, parce qu'on a perdu Joël Munier. Arnaud Larrez, vous en attendez quoi, vous, de ces propositions du Conseil supérieur de la magistrature?
Alors, je crois que le Conseil supérieur de la magistrature doit surtout se prononcer sur l'attractivité des fonctions de chef de juridiction. Ce qui est un métier dans le métier. puisque être magistrat, c'est déjà difficile, mais être chef de juridiction, c'est diriger une équipe, c'est diriger les enquêteurs, et c'est aussi organiser la juridiction, le tribunal au quotidien, l'immobilier, la sécurité, etc. Et donc on attend les propositions du Conseil supérieur de la magistrature pour améliorer, d'une part, l'équipe autour du chef de juridiction, puisqu'on est assez démunis, hein, comme le disait ma collègue de Caen, chargé de communication,
parce qu'aujourd'hui, vous devez tout faire, hein, c'est-à-dire, par exemple, quand vous devez communiquer avec la presse, c'est vous qui devez vous y coller tout le temps, quoi.
C'est ça, on prépare nos conférences de presse tout seul, nous on va effectivement devoir à la fois inviter les journalistes, préparer notre texte, faire l'interview, répondre aux questions sans aucune assistance. Dans les petites juridictions, bien entendu, dans les juridictions un peu plus de taille plus importante, il y a ce chargé de communication, mais à Sens, il n'y a pas tout ça. Et si vous voulez bien faire votre travail, vous avez besoin d'une équipe, et on attend, j'espère, que le Conseil supérieur de la magistrature préconise des standards sur cette équipe autour du chef de juridiction, et puis aussi accompagner le chef de juridiction lorsqu'il arrive dans une nouvelle juridiction, parce que quand on arrive, en fait, quand on est président ou procureur, on doit tout faire, trouver un logement, trouver une nouvelle école pour ses enfants, mais en même temps prendre tout de suite contact avec ses collègues, organiser la juridiction, alors même que peut-être il n'y avait plus de procureur ou de président depuis 6 mois.
D'accord. On a vu avec Katia Dubreuil à quel point vous étiez à flux tendu, hein, avec pas assez de greffiers, notamment. On fait comment Je voudrais essayer de comprendre pour le justiciable, pour les auditeurs qui nous écoutent, quelles sont les conséquences, Katia Dubreuil?
Les conséquences, c'est que vous pouvez prendre moins de temps déjà pour examiner chaque dossier. Alors, soit... Enfin, le dilemme qui est celui du magistrat, et ça ressortait d'ailleurs de l'étude qu'on avait faite, hein, le sondage qu'évoquait Madame Dufour tout à l'heure, c'est la qualité d'un côté de ses décisions, le temps qu'il va prendre à lire la jurisprudence, à lire, à se mettre à jour par rapport aux nouveaux textes, à faire des recherches, etc. Et le flux de dossiers qu'il faut traiter. Et les problèmes de stock de la justice, hein, ça ne date pas du Covid de l'année dernière. Hein, les problèmes de stock et de délai de la justice, ça date, c'est récurrent depuis de nombreuses années. Et tant qu'on n'aura pas les moyens, ça veut dire que le justiciable va attendre sa décision longtemps. Vous avez dans certaines juridictions un justiciable qui souhaite divorcer, un justiciable qui souhaite avoir une décision sur la garde de son enfant, un justiciable qui a besoin d'avoir une réponse pour ses indemnités de licenciement, etc., qui va attendre des mois, voire parfois et même souvent des années avant d'avoir la décision. Donc quel sens a la décision de justice quand elle arrive si tard? Et puis même pour arriver à ce résultat qui est déjà pas du tout satisfaisant, les magistrats auront, dans certains cas, pas pu passer le temps qu'ils auraient voulu passer sur les procédures. Ou alors ils le font et ils s'épuisent en travaillant la nuit, le week-end, pendant leurs congés, etc., etc. Ce qu'on a pu voir aussi dans notre sondage.
Et c'est
ce qui aboutit
cas...
parfois à des situations réellement de détresse, hein, des magistrats.
Est-ce que c'est votre cas, Joël Munier, quand vous entendez ce que nous dit Katia Dubreuil? Vous aussi, vous regrettez de ne pas pouvoir passer assez de temps pour vraiment bien suivre un dossier comme il faudrait?
Je pense que c'est ce que je disais au départ, c'est général, c'est l'idée qu'on se fait, la très haute idée que l'on se fait à la fois de la justice et du service que l'on rend aux justiciables, de cette utilité sociale, nous conduit évidemment à vouloir la meilleure qualité et de pouvoir être attentif, être à l'écoute des justiciables, ce qui prend effectivement du temps. L'idée aussi que nous souhaitons, nous prenons des décisions qui sont extrêmement lourdes de conséquences en quelque matière que ce soit pour les justiciables. Il nous faudrait pouvoir donc multiplier ce qu'on appelle la collégialité, c'est-à-dire ne pas être seul pour prendre ces décisions, être à trois en général. Or, le manque effectif d'effectifs, le manque de greffe aussi, fait que nous avons tendance à prendre plutôt des audiences en juge unique qu'en collégial et à réduire donc ces temps. Donc tout notre votre travail aujourd'hui est axé sur la définition finalement de cette ligne de crête et de ce partage entre écouter, entendre, être à l'attention des justiciables et puis quand même répondre dans un délai raisonnable à leur demande et à leur situation. Voilà, donc c'est, ouais, c'est vrai. Merci que ça prend beaucoup de tension.
On l'imagine. Merci beaucoup en tout cas à toutes et tous pour ce débat très riche. On vous souhaite beaucoup de courage parce qu'on a besoin de vous. On ne vous a pas applaudi pendant la crise du Covid, mais on sait que vous êtes important aussi pour l'équilibre de notre société. Merci.
Europe 1, Isabelle Millet.